Bonjour à toutes et à tous, Didier sur IDFM pour un nouveau rendez-vous compte. Un rendez-vous compte spécial composé comme chaque mois depuis la saison dernière avec nos chroniqueurs, en deux mots, chroniqueuses aussi. Ces chroniqueurs et ces chroniqueuses qui tiennent à vous présenter leurs vœux, à leur façon évidemment, en fonction de leur personnalité bien différente. Rendez-vous compte. Alors pour commencer ce rendez-vous compte, comme chaque mois, nous retrouvons notre ami Michel Saufroy-Paré, qui nous propose, selon son habitude, son regard à la fois lucide, tendre et ironique sur ce rituel des vœux du nouvel an que l'on s'adresse à soi-même, plein de bonnes résolutions qu'on ne respectera pas.
31 décembre, le compte à rebours est lancé. Ici, ailleurs, dans nos villes et nos campagnes, sur les champs, partout dans le monde. Qu'il pleuve ou qu'il vente, on attend, fébrile et impatient, un verre à la main. C'est la fête. 5, 4, 3, 2, 1. Jouez au bois, résonnez musette, il est né le nouvel an. Feu d'artifice, klaxon, fanfare, flonflon et cri de joie. Pourquoi ? À vos marques, prêts ! À vos marques, faites vos vœux. On trinque, on s'embrasse, on se souhaite une bonne année. On se présente tous les meilleurs vœux pour l'an neuf, même si on ne se connaît pas. Tous embarqués sur le même bateau au fil du temps. Une bonne année, hein, une bonne santé surtout. Ah, la santé, la condition sine qua non pour pouvoir bien vivre et profiter de ce que la vie nous offre. Alors, pour cela, plus de tabac, plus d'alcool, plus d'écran, plus de réseaux sociaux, plus de disputes ni de discordes, plus de nuits blanches. Adieu Marie-Jeanne et refuge dans des paradis artificiels. C'est stupéfiant. Ce soir, c'est sûr, on y croit. Alors, plus de sport, plus de sorties, cinéma et théâtre, plus de rencontres amicales, plus de vie sociale, une vie saine et bien réglée. Plus, sacré programme. Tous les ans, la même rengaine, les mêmes résolutions, on y croit, dur comme fer. Janvier. Dans l'euphorie, on tient le coup, fier de soi. Février, un petit verre de temps en temps, une clope, un petit joint par-ci par-là. Oh, ça ne peut pas faire de mal. Mars, ça se dégrade avec le printemps. Avril, mai, ça dérape. Juin, juillet, août, c'est l'été, temps de détente. Oh diable, les bonnes résolutions. Septembre, etc. On s'enlise. Les bonnes intentions tombent comme les feuilles mortes qu'on ramasse à la pelle jusqu'à la fin de l'année. 31 décembre, dans les chaumières ou sur les champs, comme tous les ans, on repart pour une nouvelle et belle année. À vos marques, faites encore vos vœux. Bonne année, bonne santé, plus d'alcool, plus de tabac, etc., etc. Des vœux pieux, tout ça. Ainsi va la vie, au fil des ans, depuis la nuit des temps. Rien ne va plus, faites vos vœux. Messieurs les politiques, de tous bords et de tous poils, messieurs les dirigeants, que nous proposerez-vous cette année pour nous faire la vie belle et offrir au monde la paix et tout le bonheur auquel il aspire. Encore des promesses, rien que des promesses. Osons y croire. En attendant, trinquons. Prost, Noyard. We wish you a happy new year. Tous mes meilleurs vœux pour 2026. Et n'oubliez pas de prendre vos bonnes résolutions.
Merci Michel pour cette chronique si pertinente. Merci également à Michel, sans E, pour l'enregistrement depuis votre belle côte méditerranéenne. Alors je formule le vœu de vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle chronique. Normalement, cette résolution-là devrait être facile à tenir.
Les bonnes résolutions m'envahissent la tête. Chaque année, j'ai l'intention d'atteindre la perfection, de frôler tous les sommets. Les bonnes résolutions, j'en remplis des brouettes. Et c'est la compétition, les plus grandes décisions étalées sur des cahiers. Quand vient le mois de janvier, je nage. Même au mois de février, je nage. Et d'année en année, je n'ai fait que passer à côté de mes promesses. Quand arrive l'été, j'enrage. Je ne fais que brasser, dommage. Brasser de l'air jusqu'au prochain hiver. Votre résolution, je suis une idéaliste. Je fais des listes que je n'applique jamais. Je supplie ma volonté froide comme un glaçon. Elles sont si diverses.
IDFM 98FM.
Nous sommes toujours bien sur IDFM pour ce nouveau rendez-vous compte spécial chronique consacré en ce début de janvier 2026 aux vœux de bonne année que l'on se souhaite ainsi qu'aux autres. Alors après les résolutions inapplicables de Michel et ce bonheur toujours promis de Paul Éluard, chanté par Thierry Leclerc, on retrouve Nicolas Martin, peintre et critique d'art qui illumine chacun de nos rendez-vous et qui nous raconte, selon son talent littéraire autant que pictural, l'histoire d'un vœu que tout artiste formule dans chacune de ses créations.
Aujourd'hui, dans Argument, l'histoire d'un tableau devant lequel on passe sans vraiment s'attarder. Ou peut-être plutôt, l'histoire d'un vœu. Celui que tout artiste formule dans chaque création. Un souffle de vie déposé sur la toile aux allures d'espérance. Mais laissez-moi vous raconter. Il est question d'un jeune sculpteur solitaire nommé Pygmalion, qui comprenait la pierre mieux que les hommes. Il savait où elle tremble, où elle résiste, où elle s'offre. Un soir, il sculpta une femme, dans la blancheur silencieuse du marbre, avec toute l'énergie dont il était capable, gravant dans la pierre ses angoisses, ses élans, ses espérances comme on glisse ses secrets dans un puits dont on ne voit pas le fond. Et, sans le vouloir, ainsi, il formula un vœu, humble, à peine un souffle. Que cette forme froide prenne vie. Or, comme les vœux modestes traversent les mondes mieux que les prières tonitruantes, un souffle étranger venu des royaumes où la matière hésite encore à choisir son camp, frôla la statue et éveilla ce que la pierre gardait depuis toujours, un désir. L'épaule de sa statue se colora alors doucement. Ses paupières s'alanguirent comme si la lumière qu'elle ne voyait pas encore l'appelait. Et, pour la première fois depuis que le monde est monde, une statue ouvrit les yeux, non pour regarder, mais pour naître à son créateur. Saisie, hésitant entre la peur et le ravissement, mais déjà en adoration, Pygmalion s'approcha de la femme et comprit que son vœu et son accomplissement ne lui appartenaient plus. Très longtemps après, en 1918, la pénombre tient tête aux verrières d'un atelier parisien. L'air sent la cire et le bois humide. Giraudet, malade et affaibli, contemple le tableau sur lequel, depuis 7 années, il s'épuise d'une main de moins en moins sûre. Une œuvre qu'un mécène italien lui a commandée et qui représente un homme regardant une femme. Pygmalion et Galatée, décrit par Ovide dans ses Métamorphoses. Pris d'une soudaine inspiration, le peintre saisit sa palette, ses pinceaux, et monte sur l'escabeau de bois. Il peint la pierre qui se réchauffe, la naissance fragile d'une femme encore retenue entre deux mondes, d'un être à nul autre pareil. Son Pygmalion est fasciné par ce qu'il découvre. Sa main repliée indiquant sa méfiance devant l'impossibilité du miracle, tandis que le doigt qu'il dirige vers lui-même suggère l'interrogation sur sa responsabilité dans la création de la femme sculpturale qui prend vie. Galatée se tient debout. Son corps, qui a conservé la blancheur et la pureté du marbre, se détache du fond, qui lui-même est encore plus clair, une prouesse technique dont le peintre était fier. Ses pieds sont encore de la même teinte que le piédestal, mais les jambes se colorent progressivement d'un rose délicat. Le peintre peaufine alors les derniers détails, dont celui de la figure allégorique de l'amour, qu'il a placé entre les deux personnages, un cupidon ailé, créant un lien et renforçant l'idée de présence divine. Giraudet repense à ses débuts dans l'atelier de David, à son séjour à Rome, qui a orienté son art, pour finir le chemin ici, devant ces deux personnages sur cette toile. Quel parcours ! Et, tandis qu'il achève ce qui sera, il l'a compris, sa dernière œuvre, il songe que pour que l'image s'incarne, il faut lui accorder un souffle, qu'il faut croire, ne serait-ce qu'un instant, qu'elle possède déjà une existence au monde. C'est un vœu, celui des artistes. Alors, si vous allez au Louvre, arrêtez-vous dans l'aile de Nom, salle 702, et observez ce Pygmalion et Galatée. Il aura suffi que Giraudet lui insuffle dans un vœu pieux assez de vie pour qu'il porte encore aujourd'hui un fragment de son âme. À bientôt, dans Argument.
Merci Nicolas, Nicolas Martin, et pour cette chronique où, une nouvelle fois, comme le peintre Anne-Louis Giraudet, tu sais insuffler assez de vie aux œuvres et aux artistes pour qu'ils portent encore aujourd'hui un fragment de leur âme. Nicolas, on te retrouve le mois prochain.
Galatée Pygmalion. Pygmalion, sculpteur, a travaillé la pierre, si bien que Galatée idéal apparaît. Il a mis tout son cœur et cet effort sacré, toute son âme et mis toute sa lumière. La voilà, plonge dans l'atelier solitaire, finie aux yeux, finie aux reins, et l'on croirait que le pied délicat quitte le socle, prêt à courir dans la vie. Et même la paupière a remué. Ce n'est pas une illusion. Le marbre devient chair. Pourquoi, Pygmalion, as-tu fait si charmer ses seins et ses épaules? Elle vit. Écrasée sous sa mignonne main, tu subis nos douleurs d'hier et de demain. L'épine de la rose et la neige d'épaule.
On va marquer une première pause musicale avec cette chanson de Jean-Roger Caussimon, dont le texte est le poème de Paul Éluard qui s'intitule « Sur un vœu ». On écoute la version à la fois fluide et affectueuse de notre ami chanteur et poète Thierry Leclerc.
Toute caresse, toute confiance se survivent. Ces mots tout simples de lumière, Paul Éluard les a écrits. mot plus fervent que la prière et plus éclatant que le cri. Ils sont plus forts que l'invective, que la violence ou le mépris. Ils ont jailli comme l'eau vive. Le cœur y parle avant l'esprit. Toute caresse, toute confiance se survivent. Où sont les lendemains qui chantent et ce bonheur toujours promis? Dans les cités indifférentes, chacun croit voir ses ennemis. Mais si par hasard il arrive d'entrevoir un regard ami, parmi tant d'ombres fugitives, que ce regard soit retransmis. Toute caresse, toute confiance se survivent. Pour la berceuse maternelle, la voix du père en la maison, et pour le souvenir de celle qui t'aimait plus que de raison. Que rien ne parte à la dérive, et que le bonheur d'un instant sur un ciel d'avenir s'inscrive et resplendisse avec le temps. Toute caresse, toute confiance se survive.
Nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte spécial chronique consacré ce mois-ci aux vœux que l'on formule à cet instant unique de l'année. On retrouve celle qui aime faire des autopsies, boire du Pepsi et dire des inepties, Hélène Souhaud, thérapeute, psychanalyste, qui nous présente son œil du psy et s'intéresse aujourd'hui à la pensée magique et au sens du vœu en psychologie.
Je voudrais un camion de pompiers rouge qui fait pimpon. Faites que j'ai mon examen, faites que maman guérisse, faites que Jules m'invite à boire un verre. Que d'espoir en écrivant au Père Noël, en soufflant ses bougies, en regardant passer une étoile filante ou en s'embrassant sous le gui. Souhaiter, espérer, se projeter, en comptant sur la chance, le destin ou Dieu pour orchestrer la réalisation de ses désirs, c'est s'inscrire dans une longue tradition mêlant superstition, religion et pensée magique.
Dis-moi Hélène, la pensée magique, qu'est-ce que c'est ?
La pensée magique est un stade normal du développement de l'enfant. Elle apparaît vers 2-3 ans, lorsque l'enfant commence à agir sur son environnement. Elle disparaît progressivement avec l'installation de la pensée logique autour de l'âge de raison vers 7 ans. La pensée magique a une dimension culturelle forte. Les parents entretiennent les mythes du Père Noël ou de la petite souris qui viennent la nuire et compenser les enfants sages. Mais chaque enfant développe aussi son propre univers magique personnel. Le lit devient un bateau qui protège des requins du plancher. La bordure du trottoir est un fil suspendu au-dessus du vide. La lune me suit par la fenêtre de la voiture. Je peux même la tenir entre deux doigts avant de la relâcher dans le ciel. Et si je ferme les yeux et que je compte jusqu'à 3 en pensant très fort à Jules, il tombera sûrement amoureux de moi.
Bah voyons. Et à l'âge adulte, ça continue, Hélène, non ?
Oui, parfois, c'est pas forcément un problème. Il existe une pensée magique douce, poétique, socialement admise, faire un vœu en soufflant les bougies, en voyant une étoile filante, ou le 1er janvier, ce qu'on va faire très bientôt. Psychologiquement, ces moments sont intéressants. Ils permettent de faire le point sur ses priorités, ses objectifs, ses rêves plus ou moins réalistes. Vouloir, espérer, se projeter vers l'avenir est un signe d'optimisme et de bonne sentimentale. En revanche, lorsque les rituels servent à conjurer l'angoisse, compter, toucher, vérifier, revérifier, transformer l'espace en zone autorisée et interdite, on parle de TOC, de troubles obsessionnels compulsifs. Ces stratégies qui étaient efficaces et adaptées dans l'enfance deviennent une prison à l'âge adulte.
Alors une prison, comment on peut en sortir ?
Alors, le TOC, déjà la première étape, c'est de le nommer. C'est pas si simple. Le TOC est fréquent, il s'accompagne souvent de honte et de secrets. Oser se le dire à soi-même, puis en parler à un thérapeute, C'est déjà une étape essentielle. Ensuite, deux leviers existent. Ils sont complémentaires. Le premier consiste à comprendre l'histoire de l'angoisse que l'on tente de réguler par ces rituels. C'est l'approche psychanalytique tournée vers les causes et vers le passé. Le second levier est plus concret. Se fixer des objectifs précis et progressifs de réduction des rituels. Vérifier 3 fois au lieu de 5, compter 2 fois au lieu de 4, changer d'itinéraire pour ne plus passer par les lieux associés rituels. Chaque renoncement est une petite victoire. C'est l'approche cognitivo-comportementale, ou TCC, centrée sur l'action et sur le présent.
Bon, et à quoi sert le vœu en psychologie ? Puisque c'est quand même le thème de l'émission, Hélène.
Le vœu est la version magique des événements. Le vœu est la version magique d'éléments essentiels à la vie psychique. Désir, volonté et l'envie tolle. Tout ce qui s'oppose à la dépression, en somme, qui est l'état où l'on ne veut plus rien. Lors du premier rendez-vous, le patient dit souvent « je viens vous voir parce que ». Il donne ainsi une impulsion, une direction à la thérapie. A l'inverse, « je viens vous voir parce que mon partenaire, mon médecin ou un juge me l'a demandé » rend le travail plus difficile. Tant que la démarche n'est pas appropriée, le mouvement intérieur ne se fait pas. Affiner sa demande, se connecter à ses véritables besoins, est un enjeu majeur de toute thérapie. Ce n'est ni égoïste ni égocentrique. C'est un socle indispensable pour pouvoir entendre ensuite les besoins des autres un jour. Si j'ai bien compris, Didier, tu souhaitais que nos chroniques soient plus courtes. Je vais tenter de répondre à ce besoin en vous disant au revoir.
Bon, bah écoute, merci Hélène Souhaud. Je sais qu'avec toi, sur l'antenne d'IDFM, comme dans ton cabinet de psychanalyste et thérapeute, les vœux se transforment en réalité. Rendez-vous compte. Alors, on te retrouve le mois prochain et en attendant, continue Hélène à ouvrir l'œil du psy.
D'accord.
IDFM, 98FM.
Dans ce rendez-vous compte spécial chroniqueur, on retrouve maintenant Marine Gauvin, notre illustratrice freelance et écologique, qui nous explique comment ces cartes de vœux se sont retrouvées dans un lieu prestigieux. Raconte-nous ça, Marine.
Il y a quelques années de ça, entre deux confinements, je participais à un marché de Noël ennuyeux où il ne se passait rien. Je baillais aux corneilles, les minutes duraient des heures. Je connaissais par cœur les stands de mes voisins et voisines, j'usais mes souliers sur la moquette à force d'aller et venir, pour passer le temps. Et puis, alors que cette journée s'annonçait ennuyeuse comme la pluie de novembre et sans bonne surprise aucune, une visiteuse s'est arrêtée à mon stand et m'a dit « Vous savez que vos cartes de vœux sont à l'Élysée ?» J'en suis tombée de ma chaise. Ça, je ne l'avais pas vu venir. Il s'est avéré que cette cliente envoyait ses meilleurs vœux à Emmanuel Macron sur mes cartes. Et voilà. Marine Gauvin s'est faufilée jusque dans le bastion du président, ni vue ni connue. J'ai semé à mon insu des graines d'écologie dans ce palais vétuste où les reculs environnementaux sont aussi criants que la fonte des glaces. Car mes jolies cartes qui trônent, je l'espère, fièrement sur le bureau de notre actuel président ne sont rien d'autre qu'un renard et un lagopède alpin. Deux symboles forts d'un double quinquennat qui est plutôt rouge que vert. Les couleurs de Noël, bien entendu, cela ne vous aura pas échappé. Le renard, classé faussement nuisible, n'est rien d'autre qu'un véritable régulateur qui se gave de petits rongeurs qui, sans lui, détruiraient les cultures et nous forceraient, rendez-vous compte, à épandre des pesticides, nuisibles E pour l'ensemble de la chaîne animale. Comptez les humains dans cette chaîne. Opportuniste, il nous débarrasse aussi de carcasses d'animaux morts, nous permettant de nous balader dans une forêt sans montagne de cadavres pour nous servir de cairn. Il permet également de réguler la maladie de Lyme en mangeant des proies infectées de tiques. Quant à sa population, si l'homme ne venait pas le chasser pour le plaisir de tuer, elle s'autorégule naturellement car les renards ont des portées plus ou moins grandes en fonction de la quantité de proies disponibles dans l'environnement. Bref, dans le renard, tout est bon. Alors laissons-le égayer nos forêts et nos campagnes. Avec lui, nous sommes protégés de bien des déboires. Et enfin, si votre renard saccage vos poules, faites en sorte que votre poulailler soit bien protégé. Et gardez cela bien en mémoire. Dans la nature sauvage, cette configuration est inexistante. L'instinct de prédation du renard en présence de cet amas de poules dans un même endroit est complètement perdu et le renard s'attaque à tout ce qu'il bouge. Si les poules restaient immobiles, il n'y aurait pas tant de dégâts. Peut-être faudrait-il apprendre aux poules domestiques à se tenir coites quand un renard pointe le bout de sa truffe ? Le renard n'est pas en cause, mais nos modes de vie et de fonctionnement. Quant au lagopède alpin, il est un symbole parmi d'autres du réchauffement climatique. C'est en effet un oiseau du froid qui vit dans nos montagnes et qui a la particularité de changer 3 fois de couleur dans l'année pour échapper à ses prédateurs. Il passe de gris moucheté au printemps à un mélange gris-blanc à l'automne, avant de devenir blanc comme neige en hiver, avec juste une jolie trace de noir autour des yeux, comme un magnifique trait de côle. L'évolution en a fait un oiseau particulièrement adapté à des conditions hivernales rudes, mais avec les températures qui ne cessent de grimper, il est victime de ce qu'on appelle le plafond de verre. Il doit monter de plus en plus haut pour avoir des conditions d'enneigement et de froid optimales. Or, à un moment donné, il ne va pas pouvoir monter plus haut que le sommet de la montagne. Il doit également faire face au yo-yo environnemental avec de grosses chutes de neige qui sont suivies d'un redout. Dans sa nouvelle mue toute blanche, si la neige vient à fondre d'un coup, notre oiseau des montagnes devient tout de suite plus visible aux yeux de ses prédateurs. Pas simple d'être lagopède alpin en ces temps tourmentés. Pas simple pour nous non plus. Quelques cartes de vœux à l'Élysée ne suffiront pas à faire pencher la balance et ce n'est pas les arbres qui refleurissent en ce mois de décembre qui vous diront le contraire. Nous devons tout réapprendre et tout réinventer nos liens avec le vivant. Et vous savez quoi ? Nous pouvons faire tout cela dans la joie, la solidarité, l'entraide et une sacrée bonne dose d'humour. L'écologie n'est pas une idéologie, juste un état de fait, au même titre que la respiration ou la photosynthèse. Elle n'est pas punitive comme certains hauts placés de notre pays voudraient nous le faire croire, bien au contraire. Retrouver sa capacité d'émerveillement face au vivant est crucial, et met, qui plus est, du baume au cœur. Récemment, au bord de la route pour aller à Auchan, je suis tombée sur des corneilles avec des vers de terre dans le bec. Je suis restée 5 bonnes minutes à les regarder essayer de les gober, et ça m'a plus fascinée que les voitures qui roulaient sur la route. La connexion à la vie sauvage et l'émerveillement sont à notre portée. Pour cela, il suffit d'ouvrir les yeux et de faire de la place pour que notre joie enfantine se ravive. En 2026, entrons dans une révolution joyeuse, solidaire et humoristique pour notre bien-être et celui de tous les êtres vivants dont nous dépendons.
Merci Marine. Alors on verra si l'année nouvelle se traduira par cette révolution que tu appelles de tes vœux, joyeuse, solidaire et humoristique pour notre bien-être et celui de tous les êtres vivants dont nous dépendons. Marine, comment peut-on prendre connaissance de tes œuvres ?
Sur mon site www.marinegauvin.com, Gauvin, G-A-U-V-A-I-N.
Voilà, et de quoi faire de très très beaux cadeaux en cette période de vœux.
Je te souhaite les étoiles, je te souhaite la lumière, et tout le bien sans le mal que je n'ai pas su te faire. Je te souhaite des voyages, je te souhaite de partir.
Ainsi se termine notre premier rendez-vous compte spécial chronique de cette année nouvelle 2026, consacré ce mois-ci aux vœux et aux bonnes résolutions de janvier, qui sont vite oubliées. Une émission à retrouver en podcast sur le site d'IDFM avec toutes les références de nos chroniqueurs. Merci Michel, Thierry, Hélène et Marine. On vous retrouvera avec grand plaisir le mois prochain. Et quant à moi, Didier, je donne rendez-vous à tous les auditeurs la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour un nouveau numéro de Rendez-vous Compte sur IDFM, évidemment. Et en attendant, je vous retrouve aussi dimanche matin dans la matinale de midi pour ma chronique Nec plus Ultra, consacrée aux expressions issues du latin et de la mythologie grecque. À bientôt et bonne année.